Vous êtes bien sur Les Petits Papiers, Canal Sud et Radio Laura, et on est aussi en compagnie aujourd'hui. Un plaisir de te recevoir, Antonin Paris.
Eh bien, plaisir d'être ici, ça fait trop chouette.
Génial. Antonin Paris, eh bien, colérique. C'est le titre de ton spectacle. Un seul en scène avec marionnette. Alors du coup, si on est seul en scène, la marionnette compte pas. Enfin bon.
Un seul en scène pour deux.
Voilà, ça peut être ça.
On peut dire ça.
Parce qu'il y a vraiment un petit personnage avec toi, vraiment, hein, que tu animes et qui t'anime et qu'il y a tout un jeu. Alors. Comment ça commence toute cette histoire, Antonin, hein? Qu'est-ce qui t'as pris une grosse colère et t'as dit non? Bon,
facile, j'étais très en colère. Mais c'est tout à fait ça. Hein.
En plus, bah, c'est ça.
Oui, bah, carrément. Ça commence déjà avec la compagnie, donc la compagnie RSA qu'on n'a pas appelée comme ça par hasard quoi. Bah, parce que quand on s'est rencontrés pour l'affaire avec Aurélie Billy et Lou Ray, on était toutes les trois au RSA. Donc on s'est rencontré dans la formation l'acteur au présent au théâtre du Ring.
Donc ouais, vous rencontrez comme ça.
Et on décide de fonder une compagnie pour notre première création, le spectacle Ifis et Yanté, donc qui est un spectacle jeune public avec marionnettes, de la musique live, du théâtre d'objets et du théâtre d'ombre qui parle des stéréotypes de genre.
Alors, je tiens à dire à toutes les auditrices et tous les auditeurs que oui, c'est un spectacle jeune public, mais qui s'adresse aussi
à
l'enfant qu'il y a dans tout adulte, si on a réussi à le garder vivant et à ne pas le tuer, cet enfant-là. Et personnellement, je me suis régalée de l'avoir vu à la MJC des Amidoniers. Ensuite, c'était au théâtre du Fil à Plomb. Et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, de voir ces théières qui s'envolent. Et moi, j'étais dans. Il y a une magie du spectacle comme ça, avec le théâtre d'ombre, etc. Et marionnettes, en fait, et voilà. Et bien sûr, tout ça au service d'un propos. Donc, effectivement, c'était... comment tu l'intitules, le propos, toi? La question du genre, il y en a qui vont dire la problématique, etc. Comment toi, tu l'intitules?
On dit qu'on parle de stéréotypes de genre, quoi.
Tout à fait. Et de lutte contre les stéréotypes.
Oui, voilà, c'est ça. On questionne poétiquement les stéréotypes de genre, c'est ça. C'est une histoire dans laquelle le personnage, on lui dit tu es une fille, on lui dit tu es un garçon. Et en fait, finalement, la conclusion, c'est ça change pas l'histoire, quel que soit ce personnage.
Oui,
est-ce que c'était vraiment important de...
Puis surtout, il y a une belle histoire d'amour.
D'amour ou d'amitié, selon comment...
Oui.
Comment on la voit. Ouais, c'est
la compagnie où elle démarre comme ça, excusez-moi.
Oui, c'est ça, la compagnie démarre comme ça, et la compagnie, enfin, en tout cas, on s'est rassemblés autour d'une idée de défendre des projets qui défendent la justice sociale et la lutte contre les discriminations. Donc il y a ce spectacle qui est créé, il y a Colérique là du coup, dont il y a la première la semaine prochaine. Ensuite on a un autre projet qui démarre, Mulet, qui parle du passage à la trentaine avec son lot d'angoisse dû au contexte politique, quoi. Qu'est-ce que c'est de grandir, de vieillir dans le monde qu'on nous sert là. Voilà.
D'accord.
Et ça il y aura une première étape de travail au festival Tapage du Théâtre du Grand Rond le 10 mars, il me semble. Voilà, ça c'est les projets de la compagnie. Et sinon, on soutient aussi des projets dont font partie des membres de la compagnie, mais qui ne sont pas des projets portés par l'entièreté de la compagnie. Donc il y avait Le Monde vous appartient, un spectacle pédagogique pour les collèges-lycées qui parle de la lutte contre les LGBT-phobies. Et il y a aussi un conte musical à venir là qui va sortir cet hiver, porté par Lou Ray, donc de la compagnie aussi. Voilà, donc
donc on est toujours dans des projets,
ouais,
finalement,
oui.
Où il y a une forme de démarche d'émancipation, une démarche d'enlever effectivement des carcans qui empêchent d'être soi.
De parler de contexte politique, enfin sous différentes formes, voilà, poétique, théâtre, marionnette, mais voilà, de toujours défendre un propos politique, quoi.
Mais oui, donc un propos politique. Alors, et donc j'imagine que il y a ceux qui vont vous dire, mais c'est épouvantable, c'est terriblement woke et queer, ce spectacle et cette compagnie. Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
Je réponds oui, bien sûr. C'est le but.
C'est bien le propos.
C'est le but, oui, c'est vrai que j'ai pas. Mais oui, c'est tout à fait le but. Bah, le spectacle colérique part de ça, quoi. Oui, comme tu disais, d'une grande colère qui vient du manque de représentation. Parce que moi, je suis un homme transgenre. Donc si on refait un petit point de définition, un homme transgenre, c'est un homme qui a été assigné femme à la naissance. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Qui doit lutter effectivement tout au long de son enfance, peut-être pour justement exister en tant que tel.
Surtout, je pense que moi, le point de départ de ma colère, oui, c'est le manque de représentation, d'exemple, quoi. Et de se dire... de ne pas pouvoir se voir, se reconnaître dans quelqu'un et du coup d'avoir encore plus de difficultés à comprendre ce qu'on traverse parce qu'on n'a pas de modèle pour le comprendre, quoi. Et donc, voilà, j'ai voulu faire ce spectacle pour qu'il y ait la représentation d'hommes transgenres et notamment au théâtre, parce que comme je le dis dans le spectacle, moi, ça fait, je pense, bien 10 ans maintenant plus que je vais au théâtre vraiment toutes les semaines. Depuis le lycée, ça m'intéresse beaucoup. Je vois du théâtre. Mais la première fois que j'ai vu un homme transgenre sur scène, c'était, je pense, il y a 3 ans, ici à Toulouse, dans un spectacle de Rebecca Chaillon, quoi. Donc vraiment, j'ai un peu réalisé, j'étais là...
Qu'est-ce que ça t'a fait?
À ce moment-là, j'ai eu un peu un truc un peu voyeuriste de est-ce que c'est bien un homme transgenre que je vois? Et je pense que ça m'a fait réaliser surtout ce que ça m'a fait me dire que j'en avais pas vu avant, quoi. Ouais. Et j'étais là, ah voilà, ouais, ok, un mec comme moi sur scène, et en fait c'est la première fois, quoi, que j'en vois, et depuis j'en ai pas vu tous les 4 matins non plus, quoi.
Est-ce que ça t'a, le fait de voir justement cet homme transgenre sur scène, ça t'a libéré, ça t'a autorisé, ça a levé des barrières? Ou non?
Peut-être inconsciemment. peut-être inconsciemment, mais en tout cas, je pense que ça m'a aidé à me dire que moi aussi, je pouvais venir parler de transidentité directement sur scène, quoi. Parce que dans ce spectacle, c'est vraiment le moment où cette personne prend la parole pour parler de sa transidentité, voilà, c'est un témoignage direct face public, voilà, pour parler de son vécu, enfin, qu'il soit réel ou fictionnel. Voilà, et du coup c'était vraiment chouette de voir ça, quoi.
Alors toi, tu dis donc que au départ cette colère, elle vient d'un manque justement de modèles, etc. Est-ce qu'elle viendrait pas aussi peut-être un petit peu un manque de soutien, peut-être d'accompagnement, même si c'était pas, comment dire, je sais pas, je veux dire, est-ce que autour de toi il y a des gens qui t'ont suffisamment soutenu? Oui, bah oui, Anto, tu es bien comme tu es bien toi-même, etc. Ou est-ce qu'à contrario on t'a dit mais non ma petite, va falloir t'y faire, enfin voilà, ou tu verras quand t'auras 10 gosses, enfin je ne sais pas. Non, mais je vais
les
très
exemples
loin.
Extrêmes.
Mais oui, je vais dans les exemples extrêmes, mais oui, ils existent, ils sont là quand même. Donc on les subit, on les vit. Donc du coup, je me demande, parce que tu dis manque de modèle, oui, mais est-ce que ça suffit pour être vraiment en colère? Voilà.
Ça va. Pour moi, ça va ensemble, quoi. Le fait que d'avoir aucun modèle fait que des personnes autour de toi vont pas te soutenir parce qu'elles ne comprennent, ne comprennent pas ou ne savent pas comment faire. Et bien sûr, j'ai eu les deux dans mon entourage, quoi. Des personnes soutenantes et des personnes pas du tout, quoi, ou voire violentes, enfin
Mais il y en a eu des soutenantes.
Oui, bien sûr, enfin
parce qu'il y en a qui n'ont pas de personnes soutenantes.
Oui, c'est ça, donc c'est pour ça que sur ce point-là, je suis assez je me considère assez chanceux, quoi, en termes de proches, de soutien, quoi.
Super.
Donc c'est chouette, voilà. Et du coup, ce spectacle, c'était pour aussi pour il y a un autre niveau de colère qui s'ajoute aussi en plus que le soutien ou le rejet des proches. Il y a aussi le contexte, quand même le contexte politique, quoi.
Ah.
Il y a un Il y a un moment dans la création, il y a eu la sortie du livre Transmania.
Ah,
je ne sais pas si tu vois.
Ah,
voilà.
je vais vomir dans mon micro, là, c'est pas cool.
C'est terrible, du coup, c'est vraiment la...
Auditrice, ouais. Auditeur, c'est une horreur, ce truc. Donc, et d'ailleurs, c'est des TERF, quoi. C'est des racistes, quoi, d'une certaine manière.
Des personnes racistes, transphobes.
Fascistes,
qu'on peut dire.
C'est
un livre complètement transphobe qui essaye de démontrer scientifiquement pourquoi les personnes trans sont folles, quoi. Je crois que c'est un peu, je sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mais je pense que j'ai à peu près compris en entendant parler que c'était ça qui...
Et encore plus vite là, en se prétendant féministe, ça c'est encore plus vomitif, le féminisme, à mon avis, vraiment c'est quelque chose d'émancipateur et qui accompagne toutes les luttes d'émancipation. Enfin, bon sang.
Ça c'est sûr, non mais oui, c'est
donc,
pas du tout.
T'es tombé là-dessus, donc.
C'est ça, non, puis voilà, puis à ce moment-là aussi, il y a un moment, oui, dans le parcours de création, il y a eu cette loi-là, cette proposition de loi visant à encore plus restreindre l'accès à des transitions médicales pour des mineurs transgenres, se prenant pour appui là cette espèce de panique morale de on fait du mal à nos enfants et tout, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas simple pour une personne mineure d'accéder à un traitement médical pour une transition de genre. Donc je veux dire, c'est très bien encadré et trop peut-être dans le sens où des fois on fait attendre des jeunes qui sont sûrs d'eux. Enfin bref, plein de choses, mais du coup la loi faisait croire qu'elle était nécessaire parce que ces pratiques n'étaient pas assez encadrées, alors que c'est déjà le cas. Donc il y a plein de choses, et puis même la montée d'un discours quand même, bon, général, ambiant, on entend de ces trucs, on a entendu quand même Emmanuel Macron dire son truc là, c'est sa citation là, genre le nouveau Front populaire défend le changement de sexe en mairie, mais c'est ubuesque. Donc une totale méconnaissance des réalités des personnes trans, et du coup un discours qui s'appuie sur des mensonges pour en propager.
Oui, puis en même temps qui les agite un petit peu comme ça, comme un foulard rouge pour faire peur.
Ouais, carrément.
Et c'est, en fait, quelque part, il y a une espèce de utilisation vraiment de la transidentité et de la vie réelle, au mépris de la vie réelle des gens, en fait.
Ouais,
et du coup,
ça.
On se sert de ce que des fantasmes que l'on mettrait sur effectivement les personnes transgenres pour faire que les gens marche ou pas, quoi. C'est assez horrible, quoi,
adhère à une façon de penser, une idéologie.
C'est
et du coup ça, oui, puis du coup il y a souvent l'argument, c'est oui, mais les enfants, faut pas mettre ça dans la tête aux enfants, des choses comme ça. Et du coup, moi vraiment, mon point de vue, ce que je défends, c'est oui, mais enfin, les enfants qui sont concernés aussi, comment on les aide,
justement.
Et si on leur donne pas accès à des représentations, ça va pas aller mieux pour eux, quoi. Ça va pas les aider, quoi.
Quand t'étais enfant, qu'est-ce que t'aurais aimé d'idéal qui t'aurait soutenu, toi, en fait? Parce que justement, tu n'as pas été soutenu dans cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des choses où t'aurais aimé, en tant qu'enfant, être plus respecté, justement, dans ton identité? Quelles auraient été les choses que t'aurais aimé idéalement?
Je pense que j'aurais aimé avoir les mots, la connaissance, quoi. Enfin, comme je te parlais de modèle, il y a aussi juste de savoir que c'est possible d'être une personne trans, que les personnes trans existent. Je pense que comme beaucoup, je savais pas, ou j'avais qu'une vague idée. Enfin voilà, et c'est beaucoup, enfin j'ai l'impression que c'est beaucoup ce que je développe dans le spectacle, de prendre soin de cette personne que j'étais, de cet enfant de l'enfant que j'étais, on peut dire. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, enfin juste de pas savoir que les personnes trans existent, les parents aussi, enfin tu vois, ne savent pas, ou je pense, enfin ou seulement certains milieux, enfin du coup il y a pas de possibilité de comprendre et de mettre des mots sur le mal-être d'un enfant, quoi. Donc du coup, je sais pas, enfin je peux pas forcément parler de de souffrance, enfin si ça peut, mais enfin juste de pas savoir qu'est-ce qui te pose problème, c'est un autre
mais
une
en
autre
fait,
chose quoi.
Il me semble qu'on retrouve un petit peu les mêmes thématiques et les mêmes douleurs aussi qu'il y a pu avoir, donc notamment par rapport à l'homophobie pendant très très longtemps. Je veux dire, dans les années 90, premier motif de suicide chez les jeunes garçons de moins de 25 ans, c'était le rejet de leur homosexualité par leur famille.
Ah ouais.
Et on se rappelle aussi que dans ces années-là aussi, une certaine... je ne vais même pas la nommer tellement elle m'agace, mais bon, qui était là avec sa Bible, donc au niveau de la Chambre des députés pour dire qu'il n'était pas question que le Pax passe. Voilà, le Pax est passé, le mariage pour tous est passé, effectivement. Mais, et entre-temps, ça a généré un changement, mais énorme pour les personnes donc qui ont un amoureux, une amoureuse, enfin, ou des relations entre personnes du même genre, du même sexe. Et ça a généré quelque chose d'assez immense. Juste pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, la démarche du transgenre est aussi, du coup, se retrouve à être à nouveau, enfin, c'est aussi précurseur, je pense, je l'espère, d'une nouvelle acceptation, tout comme l'homophobie aujourd'hui est vraiment, vraiment réprimée, en France, pardon, pas partout, mais voilà, et les personnes du même genre peuvent avoir une vie peinarde, à peu près, même si effectivement, je suis d'accord, les idées dégueulasses sont toujours rampantes, hein, mais en attendant, au niveau légal, et ça génère quelque chose, juste pour dire que je pense que la démarche sur la transidentité, on en est encore sur une compréhension balbutiante, hein, et que ton spectacle colérique permet aussi une visibilité, une compréhension qui est ultra nécessaire.
J'espère, oui, c'était le but quoi, de porter un discours intime quoi, de raconter mon vécu pour réhumaniser quoi, on va dire juste de. Enfin voilà, que les personnes transgenres, ce soit pas juste un mot comme ça, mais une personne quoi que tu as en face de toi quoi. Et voilà, j'ai joué pas mal le spectacle avant de faire cette véritable première. J'ai joué des étapes quoi, des étapes de travail du spectacle. Et il y a beaucoup de, enfin souvent, ça génère des discussions avec les personnes après, donc c'est chouette. Et le choix de parler de colère, c'est aussi pour permettre de rentrer dans mon histoire en fait, à travers une émotion à laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier et se raccrocher quoi. Et c'est ça qui est chouette, et que j'ai l'impression qu'on a réussi, si j'en crois les retours, c'est que chacun, chacune peut se retrouver là dans cette émotion, et du coup, hop, partir avec nous dans l'histoire et dans ce que je raconte, quoi.
Et on va continuer à en parler de Colérique, donc de la compagnie RSA, donc joue par Antonin Paris. Et tu nous avais amené aussi une musique de Ava Max, Soyam. Pourquoi?
Et ben parce que c'est une musique qui m'a inspiré pour le spectacle quoi, vraiment dans le, enfin ce qu'elle dit là, la chanteuse, elle parle à un autre personnage, elle lui dit: est-ce que toi aussi tu t'es déjà senti bizarre à côté, et après c'est la deuxième phrase, c'est à l'intérieur de toi tout est sombre et tordu, mais t'inquiète pas, moi aussi en fait, et je suis là aussi avec toi quoi.
On est avec toi, Antonin Paris. Les petits papiers, on continue.
Oh, but it don't get a bit different, 'cause baby, so am I.
Ah là là, j'adore, elle me met toujours les larmes aux yeux. Bah, moi, j'aime trop ces chansons pop qui donnent des messages en mode empowerment et tout. Alors bien sûr, c'est reste hyper individualiste, c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution, mais ça donne de la joie pour se redonner un peu d'énergie de temps en temps. Et vraiment, ouais, moi j'adore ces chansons, je pense que j'aurais pu rester avec, mais en fait le truc c'est que c'était important pour moi que tout le monde puisse comprendre les paroles du premier coup, quoi, et c'est pas simple pour tout le monde, l'anglais est normal, et à la première écoute, on comprend pas forcément, et du coup, on a fait une adaptation en français pour le spectacle.
Aha.
Il y a Elio Saint-Pierre, donc... Magic Marmotte pour son nom de... c'est son nom de Magic Marmotte sur SoundCloud. Voilà, qui m'a créé une musique en s'inspirant de celle-là, voilà, pour le spectacle, pareil, dans le même truc, hyper réconfortant, mignon et empouvoirant, quoi. Voilà, et donc bah, du coup ça me permet de parler de tout le reste de l'équipe et de toutes les personnes qui travaillent avec moi, parce que
sur Colérica.
Oui, c'est ça, parce que bon, travailler tout seul c'est limité.
Mais je crois que t'aimes bien les groupes quand même.
Bah oui, carrément, mais au début de ce projet j'ai beaucoup travaillé tout seul et c'était bien, mais c'est dur et c'était pas possible longtemps.
Bah, bien sûr.
Voilà, donc le spectacle se crée en binôme avec la metteuse en scène Aurélie Billy, donc aussi membre de la compagnie RSA, donc elle a aussi une formation de marionnettiste, donc ce qui lui permet de à la fois me diriger sur le jeu et sur la manipulation de la marionnette, et avec elle on a aussi construit la dramaturgie, c'est-à-dire construit comment se déroule le spectacle, quoi. Voilà, on a changé une scène de place, genre, ah là, ça va mieux comme ça dans le déroulé, c'est plus logique, machin, enfin voilà, c'est complètement elle qui a la main sur ça là pour la fin de la création. C'est ça. On a aussi travaillé pour les autres musiques avec Colette Alizère, qui nous a créé les pistes son
Colette
pour la manipulation de la marionnette.
Génial.
Surtout. Et j'ai aussi la chance d'avoir ma petite sœur qui est costumière du spectacle, donc j'ai profité pour embaucher pour me faire les costumes, Mathilde Paris, du coup.
Et les lumières,
bien sûr, aussi. On va avoir on va finir la création la semaine prochaine pour la première, Les Lumières, par Alex Baïs.
Alex, voilà, quelle belle équipe, tout ce petit monde qui t'accompagne, et grâce à qui tu peux monter sur scène avec ta marionnette.
Carrément.
Mais elles sont toutes là autour, sans quoi ce spectacle n'est pas, voilà, serait pas
complet. Ce serait pas aussi bien, ça c'est sûr.
Certainement. Donc, grand big up à toutes elles et elles. Donc, on a oublié personne, hein. Jusque-là, tout va bien.
Tout va bien.
Voilà. On rappelle aussi que ce spectacle, donc... allez-y au mois de février au théâtre du Fil à Plomb, le merveilleux théâtre à côté de la place Arnaud Bernard.
C'est ça, les 12, 13 et 14 février.
Voilà, retenez. Donc la Saint-Valentin, c'est le dernier jour.
Une bonne idée de sortie pour la Saint-Valentin.
Voilà.
Voilà. Et ce que tu me disais là, c'est qu'il fallait.
C'est que un petit fond sonore. Je sais que ça fait partie de ce qu'au départ.
Oui, c'est ça. C'est une des musiques desquelles on s'est inspiré aussi.
Allez, on s'en met deux secondes.
Allez, hein. Vas-y.
Perso, j'adore. Je trouve que déjà, on est dans un univers un peu circassien et c'est pas très loin de la marionnette. Enfin,
c'est
dans mon imaginaire. En Colérique. Alors, je crois que tu allais nous faire un petit cadeau. Que tu vas nous lire un petit texte.
Ah oui, carrément.
Il me semble. Je le prends, moi, perso, comme un cadeau. Vous allez, auditrice, auditeur, avoir un petit extrait vous retrouver dans l'ambiance du spectacle colérique.
La définition de la colère, c'est un état affectif violent, passager, résultant du sentiment d'une agression, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. La colère, c'est un mécanisme de défense. La colère me montre que je ne suis pas au bon endroit, que je suis en danger, qu'on ne me respecte pas, qu'il faut un changement. Alors mes vaisseaux se dilatent, je deviens rouge, ma circulation augmente, mon rythme cardiaque s'accélère, même ma digestion se met en pause. La colère mobilise mon énergie. Quand j'étais petit, j'imaginais une boule dans mon ventre. Plus elle était rouge, plus j'avais d'énergie. Ça me brûlait, ça me portait. C'est jouissif la colère, ça décuple les capacités. Je peux venir à bout de n'importe quoi. N'importe qui.
Antonin Paris, merci infiniment. Ça passe drôlement vite. Hein. On rappelle, le nom de la compagnie, c'est RSA, un nom qui ne doit rien au hasard. On rappelle aussi qu'on te retrouve avec le spectacle Colérique le 12, 13 et 14 février au Fil à Plomb. Et puis, il y aura ensuite, on enchaîne avec un autre spectacle, le Mulet.
C'est donc, ça.
Bah, il te reste plus qu'à revenir pour nous présenter. Ça te dit ?
Carrément, oui, oui.
Voilà, je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, venez voir notre spectacle. Venez en février et pour toutes les autres dates qu'il y aura, j'espère.
Voilà.
Et restez en colère aussi.
Ça maintient en vie. Voilà, bien souvent. Merci infiniment.